les possesseurs de la terre vinrent sur la terre, ou bien le plus souvent, c'est un de leurs émissaires qui vint. Ils vinrent dans des voitures fermées, et ils touchèrent la terre sèche avec leurs doigts. Et parfois, ils fouillèrent la terre avec de grandes foreuses pour l'analyser. Dans leur cours abruti de soleil, les métayers mal à l'aise regardèrent les voitures fermées avancer entre les champs. Enfin, les possesseurs arrivèrent jusque dans les cours et parlèrent par la fenêtre sans quitter leur voiture. Les métayers restèrent un moment debout près des voitures, puis ils s'accroupirent et trouvèrent des bâtons pour tracer dans la poussière. Sur le seuil des maisons, les femmes épiaient, et derrière elles, les enfants. Des enfants aux grands yeux et à la tête en épi de maïs, un pied nu posé sur l'autre et les orteils qui gigotaient. Les femmes et les enfants regardaient leurs hommes parler aux possesseurs. Ils se taisaient. Certains des propriétaires étaient compatissants, car ils s'en voulaient de devoir faire cela. Et certains d'entre eux étaient en colère, car ils s'en voulaient de faire preuve de cruauté. Et d'autres encore étaient froids, car ils avaient compris depuis longtemps que l'on doit se montrer froid lorsqu'on est un possesseur. Et tous étaient pris dans quelque chose qui les dépassait. Certains en voulaient aux chiffres qui les envoyaient là, et certains avaient peur. Et certains vénéraient les chiffres qui leur offraient un refuge contre leurs pensées et leurs émotions. Dans les cas où la ferme appartenait à une banque ou à une société financière, l'homme du propriétaire disait: la banque ou la société demande, exige, insiste, réclame, comme si la banque ou la société était un monstre capable de pensées et d'émotions qui exerçait sur eux son emprise. Ils se dégageaient de toute responsabilité parce qu'ils étaient des hommes et des esclaves, alors que les banques étaient tout à la fois des machines et des maîtres. Certains de ces hommes concevaient une certaine fierté à être les esclaves de maîtres aussi froids et aussi puissants. Et les hommes des propriétaires expliquaient sans sortir des voitures: vous savez bien que la terre est pauvre. Dieu sait que vous l'avez grattée assez longtemps. Les métayers accroupis opinaient et s'interrogeaient et dessinaient des formes dans la poussière. Et oui, ils le savaient, et Dieu le savait. Si seulement la poussière ne s'envolait pas. Si seulement la surface du sol voulait bien rester sur le sol, on n'en serait peut-être pas là. Les hommes des propriétaires en venaient à ce qui les amenait. Vous savez que la terre est de plus en plus pauvre. Vous savez ce que le coton fait à la terre. Il la pille, il lui pompe le sang. Les hommes accroupis opinaient. Ils le savaient. Dieu le savait. Si seulement ils pouvaient alterner les cultures, ils rendaient peut-être du sang à la terre. Oui, mais c'est trop tard. Et les hommes des propriétaires expliquaient le fonctionnement et le raisonnement du monstre qui était plus fort qu'eux. Un homme peut détenir une terre s'il réussit à se nourrir et à payer ses impôts. C'est possible, oui. C'est possible jusqu'au jour où la récolte sera mauvaise et où il devra emprunter à la banque. Mais, voyez-vous, cela ne marche pas pour les banques ou pour les sociétés, parce que ces créatures ne respirent pas d'air et ne se nourrissent pas de l'art. Elles respirent des profits. Elles se nourrissent de taux d'intérêt. Sans cela, elle meurt, de la même façon que vous mourrez si vous êtes privé d'air ou de l'art. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Les hommes accroupis levaient les yeux pour comprendre. On ne peut pas attendre encore un peu? L'année prochaine, ce sera peut-être une bonne année. Dieu sait ce que le coton donnera l'année prochaine. Et avec toutes les guerres qu'on a, Dieu sait ce que le coton pourra apporter. On n'a pas besoin de coton pour fabriquer les explosifs et les uniformes. Si les guerres continuent, le cours du coton va flamber. L'année prochaine, peut-être. Il levait des yeux remplis de questions. Nous ne pouvons pas compter là-dessus. La banque, le monstre, a besoin de profit. Il ne peut pas attendre. Il en mourrait. C'est que les impôts continuent. Si le monstre arrête de grandir, il meurt. Il ne peut pas rester à la même taille. Des doigts flasques commençaient à pianoter sur les portières des voitures et des doigts durs se crispaient sur les bâtons qui griffonnaient sans relâche. Sur le seuil des maisons abruties de soleil, les femmes soupiraient, puis changeaient de pied, de sorte que celui du dessous se retrouve au-dessus. Les chiens venaient renifler la voiture des propriétaires et marquer les quatre pneus l'un après l'autre. Les poules, couchées au soleil, dans la poussière, gonflaient leurs plumes pour faire glisser jusqu'à la peau la poussière qui les nettoierait. Dans les petites soues, les porcs grognaient, en fouissant le fond boueux de leur auge. Les hommes accroupis baissaient les yeux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas prendre moins sur les récoltes, déjà qu'on meurt à moitié de faim. Les enfants ont tout le temps le ventre creux. On n'a rien à se mettre sur le dos. Tout est en loque. On aurait honte de se montrer comme ça au culte si c'était pas pareil pour les voisins. Et enfin, les hommes des propriétaires en venaient au fait. Le système du métayage ne fonctionne plus. Un homme sur un tracteur peut remplacer 12 ou 14 familles. On lui donne une paie et on garde l'intégralité des récoltes. Nous n'avons pas le choix. Ça ne nous plaît pas. Mais le monstre est malade et il est arrivé quelque chose au monstre. Mais vous allez tuer la terre avec le coton. Nous le savons. C'est pour ça que nous allons nous dépêcher de faire du coton avant que la terre meure. Ensuite, nous vendrons la terre. Il y a beaucoup de familles dans l'Est qui seraient heureuses de posséder une parcelle de terre. Inquiets, les métayers levaient les yeux. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va manger? Vous allez devoir libérer la terre. Les charrues passeront dans la maison. Et les hommes accroupis se levaient avec colère. C'est mon grand-père qui s'est installé sur cette terre. Et pour ça, il a fallu qu'il tue les Indiens et qu'il les chasse. Et mon père est né ici. Il a tué les mauvaises herbes et les serpents. Ensuite, il y a eu une mauvaise année. Il a fallu emprunter un peu. Et nous autres, on est nés ici. Là, derrière cette porte. C'est là qu'ils sont nés, les enfants. Et mon père a dû emprunter. C'est la banque qui est devenue propriétaire de la terre. Mais on est resté. Et on a gardé pour nous un peu de ce qu'on faisait pousser. Nous le savons. Tout cela, nous le savons. Ce n'est pas nous, c'est la banque. Une banque, ce n'est pas un homme. Et un homme qui possède 50 000 arpents, lui non plus, ce n'est pas un homme. C'est le monstre. D'accord, se récriaient les métayers. Mais elle est à nous, cette terre. On l'a mesurée et on l'a divisée. On est né dessus, on s'est fait tuer dessus, on est mort dessus. Elle est peut-être pas bonne, mais elle est à nous. C'est ça qui fait qu'elle est à nous. On est né dessus, on la travaille et on mourra dessus. C'est ça qui dit la propriété, pas un bout de papier avec des numéros dessus. Nous sommes désolés. Ce n'est pas nous, c'est le monstre. La banque, ce n'est pas un homme. Oui, mais la banque, c'est rien que des hommes. Non, vous n'y êtes pas du tout. La banque et les hommes, ce sont deux choses différentes. Tous les hommes de la banque détestent ce que fait la banque, et pourtant, la banque le fait quand même. La banque, c'est autre chose que les hommes, croyez-moi. C'est le monstre. Il a été fabriqué par des hommes, mais les hommes ne le maîtrisent pas. Les métayers s'écriaient. Pour cette terre, mon père a tué les Indiens. Et mon père a tué les serpents. Qu'est-ce qui nous retient de tuer les banques? Elles sont encore pires que les Indiens et que les serpents. S'il le faut, on se battra pour garder notre terre. Pareil que le père et le grand-père. Et à présent, les hommes des propriétaires commençaient à se fâcher. Vous allez devoir partir. Mais ça nous appartient, s'écriaient les métayers. Oh non! La terre appartient à la banque, au monstre. Vous allez devoir partir. On ira chercher les fusils, comme le grand-père quand les Indiens sont venus. Alors? Eh bien, d'abord ce sera le shérif, et ensuite la troupe. Vous serez des voleurs si vous tentez de rester, et des assassins si vous tuez pour rester. Le monstre n'est pas les hommes, mais il peut obliger les hommes à lui obéir. Mais si on s'en va, où est-ce qu'on ira? Et comment? On n'a pas d'argent. Nous sommes désolés, disaient les hommes des propriétaires. La banque, ou celui qui possède les 50 000 arpents, ce n'est pas sa faute. Vous êtes sur une terre qui ne vous appartient pas. Une fois que vous serez parti, vous pourrez peut-être revenir en automne pour le coton. Vous aurez peut-être droit à des aides. Et pourquoi vous n'allez pas dans l'Ouest, en Californie? Il y a du travail là-bas. Et il ne fait jamais froid. Là-bas, il n'y a qu'à tendre le bras pour cueillir une orange. Là-bas, ça embauche toujours dans les champs. Vous n'avez qu'à y aller. Et les hommes des propriétaires démarraient leur voiture et s'éloignaient. Les métayers s'accroupissaient à nouveau pour tracer dans la poussière avec leurs bâtons, pour réfléchir, pour s'interroger. Leurs visages brûlés par le soleil étaient sombres et leurs yeux fouettés par le soleil étaient clairs. Les femmes quittaient le seuil des portes et rejoignaient les hommes sur la pointe des pieds. Et derrière elles, les enfants, eux aussi, sur la pointe des pieds, prêts à déguerpir. Les plus grands s'accroupissaient à côté de leur père parce que cela faisait d'eux des hommes. Au bout d'un moment, les femmes demandaient « Qu'est-ce qu'ils voulaient ?» Et les hommes levaient les yeux un instant et dans ses yeux, il y avait une braise douloureuse. « On doit foutre le camp. un tracteur et un contremaître, comme dans les usines. Où est-ce qu'on va aller? Demandaient les femmes. On sait pas. On sait pas. Et rapidement, sans bruit, les femmes rentraient dans les maisons et rassemblaient les enfants devant elles. Elles savaient qu'un homme égaré et blessé à ce point peut se livrer à la colère, même contre ceux qu'il aime. Elles laissaient les hommes réfléchir et s'interroger seuls dans la poussière. Au bout d'un moment, peut-être le métayer regardait autour de lui. La pompe installée 10 ans plus tôt, avec sa poignée en col de cygne et ses fleurs sur le bec. Le bio, qui avait servi à tuer 1 millier de poules. La charrue à bras dans la remise, en dessous du berceau verni suspendu aux poutres. Dans les maisons, les enfants se réunissaient autour des femmes. « Qu'est-ce qu'on va faire, ma? Où est-ce qu'on va aller ?» Les femmes disaient « On ne sait pas encore. Sortez jouer. Mais vous approchez pas de votre père. Il pourrait vous en coller une si vous venez trop près. » Et les femmes se remettaient au travail, mais elles ne quittaient pas des yeux les hommes accroupis dans la poussière, égarés et pensifs. Les tracteurs vinrent par les routes et entrèrent dans les champs. Colosses progressant sur leurs chenilles comme des insectes et dotés de la force titanesque des insectes. Ils rampaient sur le sol, dessinaient leur piste, roulaient dessus et la prolongeaient. Des tracteurs dont le moteur diesel tout sautait lorsqu'ils étaient au point mort. Ils faisaient un bruit de tonnerre lorsqu'ils se mettaient en branle. Et puis le tonnerre s'apaisait en un grondement régulier. Des monstres au museau retroussé qui soulevaient la poussière et y plongeaient leurs groins, en plein dans le pays, dans tout le pays, à travers les clôtures et à travers les portes, tout droit dans les fossés. Ils ne roulaient pas sur le sol, mais sur leurs propres chaussées, au mépris des collines et des ravins, des cours d'eau, des clôtures, des maisons. L'homme assis sur le siège en fer n'avait rien d'un homme. Les mains gantées, des lunettes sur les yeux, un masque en caoutchouc sur le nez et la bouche, il était un élément du monstre. Un robot sur le siège. Le fracas des cylindres résonnait dans tout le pays, se fondait dans l'air et dans la terre, au point que la terre et l'air murmuraient à l'unisson. Le conducteur ne contrôlait pas le tracteur. L'engin fendait le pays, transperçait 10 de fermes et faisait demi-tour. Un coup sec sur les manettes pouvait le faire dévier, mais les mains du conducteur étaient incapables de le donner. Car le monstre qui avait construit le tracteur, le monstre qui avait envoyé le tracteur, ce monstre qui était parvenu à s'immiscer dans les mains du conducteur, dans son cerveau et dans ses muscles, il l'avait fasciné et étouffé. Avait fasciné son esprit, étouffé sa voix, fasciné ses perceptions, étouffé ses récriminations. L'homme ne voyait plus la terre comme elle était, ne sentait plus son odeur. Ses pieds n'écrasaient plus les mottes de terre et ne devinaient plus sa chaleur et sa puissance. Il était juché sur un siège en fer et il s'appuyait sur des pédales en fer. Il ne pouvait ni applaudir, ni frapper, ni maudire, ni encourager le prolongement de sa puissance. Et de ce fait, il ne pouvait ni s'applaudir, ni se flageller, ni se maudire, ni s'encourager. Il ne connaissait, ni ne possédait, ni n'écoutait, ni n'implorait plus la terre. Quand une graine semée ne germait pas, ce n'était rien. Quand une jeune pousse fringante était flétrie par la sécheresse ou noyée par le déluge, cela n'affectait pas davantage le conducteur que le tracteur. Le conducteur n'aimait pas plus la terre que les banques n'aimaient la terre. Il pouvait admirer le tracteur, ses surfaces usinées, le déferlement de sa puissance, le rugissement de l'explosion dans ses cylindres, mais le tracteur ne lui appartenait pas. À l'arrière du tracteur tournaient des disques étincelants, des lames qui incisaient la terre. Non plus labour, mais chirurgie. La terre incisée était poussée vers la droite, où la deuxième rangée de disques la découpait en la poussant vers la gauche. Les lames tranchantes étincelaient, polies par la terre incisée. Et derrière les disques, les herses et leurs dents de fer peignaient et brisaient les petites mottes afin que la terre soit partout égale. Derrière les herses, les longs semoirs, 12 pénis courbes érigés dans la fonderie. 12 pénis aux orgasmes commandés par des manettes qui violaient méthodiquement, violaient froidement. Le chauffeur, juché sur son siège de fer, s'enorgueillissait des sillons rectilignes qui n'étaient pas le fruit de son vouloir. Il s'enorgueillissait du tracteur qu'il ne possédait pas davantage qu'il ne l'aimait, d'une puissance qu'il n'était pas en mesure de contrôler. Et ses cultures poussaient, et elles étaient récoltées, et à aucun moment, aucun homme n'avait écrasé dans sa main une motte chauffée dans ses doigts et laissé la terre couler entre ses phalanges. Aucun homme n'avait touché la graine, désiré la pousse. Les hommes mangeaient ce qu'ils n'avaient pas cultivé. Ils perdaient leur lien avec le pain. La terre ployait sous le fer, et sous le fer, peu à peu, elle mourait. Car n'étant plus ni aimée, ni haïe, elle ne recevait plus ni prière, ni imprécation. À midi, il arrivait que le conducteur du tracteur s'arrête près de la maison d'un métayer et déballe son déjeuner. Sandwich, enveloppé dans du papier de boucher, pain blanc, cornichon, fromage, jambon en conserve, une part de tourte avec une marque dessus comme sur une pièce de moteur. Il mangeait sans plaisir. Et les métayers, non encore expulsés, sortaient le voir. Avec curiosité, il le regardait retirer ses lunettes, puis son masque en caoutchouc, et tout cela laissait deux cercles blancs autour des yeux et un large cercle blanc autour du nez et de la bouche. L'échappement du tracteur continuait à tout sauter, car le carburant coûte si peu cher qu'il est plus efficient de laisser tourner le moteur diesel que de le refaire chauffer. Des groupes d'enfants curieux s'approchaient, des enfants déguenillés qui l'observaient en mangeant leurs pâtes frites. Ils observaient en salivant le déballage des sandwichs et leur nez aiguisé par la faim saisissait les effluves du cornichon, du fromage et du jambon. Ils ne parlaient pas au conducteur. Ils observaient sa main qui portait la nourriture à sa bouche. Ils ne le regardaient pas mastiquer. Leurs yeux suivaient la main qui tenait le sandwich. Au bout d'un moment, le métayer, incapable de vider les lieux, sortait s'accroupir dans l'ombre du tracteur.
« Ma parole ! Mais t'es le fils à Joe Davis ?»«
C'est bien ça. »«
Qu'est-ce qui te prend de travailler comme ça contre les tiens ?»«
$3 par jour. Eh, j'en ai soupé de me casser le dos pour bouffer. » Surtout vu ce que ça donne. J'ai une femme et des gosses. Faut bien qu'on mange. $3 par jour. Et ça tombe tous les jours.
Je veux bien, disait le métayer, mais pour tes $3 par jour, il y a 15 ou 20 familles qui n'ont plus rien du tout. Pratiquement 100 personnes qui doivent s'en aller sur les routes pour tes $3 par jour. Tu trouves ça normal?
Et le conducteur répondait. Je peux pas penser à ça. J'ai mes gosses à nourrir.
$3 par jour et ça tombe tous les jours. Les temps changent. Vous n'êtes pas au courant? Cette terre rapporte plus assez, à moins d'avoir 2000, 5000, 10 000 arpents et un tracteur. Cultiver la terre, c'est plus pour les petits comme nous. Ça vous viendrait pas à l'idée de piquer une colère parce que vous pouvez pas fabriquer des Ford ou parce que vous êtes pas la compagnie du téléphone? Bah, les cultures, c'est pareil maintenant. Voilà, on n'y peut rien. Trouvez plutôt à vous faire embaucher quelque part à $3 par jour, c'est le seul moyen.
Le métayer réfléchissait.
C'est drôle comment les choses sont faites. Quand tu possèdes un bout de terre, cette terre, c'est toi. Elle fait partie de toi. Elle est comme toi. Quand tu possèdes un bout de terre, juste histoire de pouvoir marcher dessus, tu l'entretiens. Et ça te pince le cœur quand elle va pas bien. Et tu te sens mieux quand il pleut dessus. Cette terre, c'est toi. Et d'une certaine façon, ça te grandit qu'elle soit à toi. Même si t'es pas riche, t'es grande ta propriété. C'est comme ça.
Et le métayer poussait plus loin sa réflexion.
Mais celui qui a une propriété qu'il voit pas, ou celui qui peut pas prendre le temps d'y mettre les mains, ou qui peut pas être dessus, marcher dessus, pour lui, c'est la propriété qui devient l'homme. Celui-là, il peut pas faire ce qu'il veut, pas penser comme il veut. Et il n'est pas grand, il est petit. Ce qui est grand, c'est ses possessions. Lui, il est au service de sa propriété. Ça aussi, c'est comme ça.
Le conducteur dévorait la part de tourte et jetait la croûte.
Les temps ont changé. Vous n'êtes pas au courant? C'est pas avec ce genre d'idée que vous allez nourrir les gosses. Faites-vous embaucher à $3, nourrissez vos gosses, ça sert à rien de penser aux gosses des autres. Continuez de causer comme ça, vous allez vous faire une réputation et vous les aurez jamais vos $3 par jour. Jamais les patrons vous payeront $3 par jour si vous pensez à autre chose qu'à vos $3 par jour.
Pratiquement 100 personnes sur la route pour tes $3. Où est-ce qu'on va aller, nous?
Eh, ça me fait penser, vous feriez mieux de pas traîner. Hein. J'attaque la cour après manger.
T'as bouché le puits ce matin.
Je sais. J'ai pas le choix que d'aller droit. Mais j'attaque la cour après manger. J'ai pas d'autre choix que d'aller droit. Eh, bon, vous connaissez Joe Davis, vous connaissez mon père. Donc je peux vous dire, j'ai eu des ordres, quand il y a des familles qui tardent à lever le camp, si jamais il arrive un accident, si je suis pas trop près, que j'esquinte un peu la maison, vous voyez le genre. Ben, disons que... il y a quelques dollars à la clé. Et mon plus jeune a encore jamais eu de chaussures aux pieds. Je l'ai construit tout seul. J'ai redressé des vieux clous pour fixer le revêtement. Attaché le plafond aux poutres avec du fil de fer, elle est à moi cette maison. C'est moi qui l'ai construite. Tape dedans et tu me trouveras à la fenêtre avec le fusil. Essaye même d'approcher d'un peu trop près, je te désingue comme un lapin. J'y suis pour rien. J'y peux rien. Si je le fais pas, je perds mon travail. Eh bon, admettons que vous me tuez. Ils vont pas s'embêter. Ils vont vous faire pendre. Mais vous serez pas encore mort qu'il y aura déjà un autre gars sur le tracteur. Et celui-là, il fera tomber la maison. C'est pas moi qu'il faut tuer. D'accord. Et tes ordres? Qui c'est qui te les a donnés? Je vais le choper. C'est lui qu'il faut tuer. Vous y êtes pas. Celui-là, il tient ses ordres de la banque. Soit tu les vires, soit t'es viré. Elle lui a dit ça, la banque. Elle a bien un président, cette banque. Elle a bien un conseil d'administration. Je vais charger la carabine et je vais les trouver. Et le conducteur répondait. J'ai un collègue. Il m'a dit que la banque, elle a des ordres qui viennent de l'Est. Et les ordres, c'est « Faites ce qu'il faut pour que la terre rapporte ou bien on vous fait fermer. » Mais alors où ça s'arrête? Qui c'est qu'on peut tuer? J'ai pas l'intention de crever de faim avant d'avoir tué l'homme qui me fait crever de faim. Je sais pas. Aussi bien, il n'y a personne à tuer. Aussi bien, c'est pas les hommes. Comme vous dites, aussi bien, c'est la faute à la propriété. En tout cas, moi, je vous ai dit les ordres que j'ai. Il faut que je réfléchisse, disait le métayer. Il faut tous qu'on réfléchisse. Il y a forcément moyen d'arrêter ça. C'est pas non plus un orage ou un tremblement de terre. C'est un malheur qui vient des hommes. Et par Dieu, on doit pouvoir y faire quelque chose. Le métayer s'arrêtait et s'asseyait alors sur le seuil de sa porte. Et le conducteur faisait tonner son moteur et démarrait. Les sillons suivaient le relief du sol. Les herses peignaient et les phallus du semoir pénétraient dans la terre. Le tracteur traversait la cour et la terre dure et battue devenait un champ ensemencé. Et le tracteur passait encore. Ne restait plus qu'une bande large de 3 mètres. Et le voilà qui revenait. Le métal du passage de roue accrochait le coin du pignon, abattait le mur et arrachait la bicoque à ses fondations. Et alors elle s'effondrait de biais, écrasée comme une vermine. Et le conducteur avait ses lunettes sur les yeux et son masque en caoutchouc qui lui couvrait le nez et la bouche. Le tracteur traçait une ligne droite et l'air et le sol tremblaient de son tonnerre. Le métayer le suivait du regard, sa carabine à la main. Sa femme était près de lui et les enfants couaient derrière. Et tous suivaient le tracteur du regard. Dans les villes, en bordure des villes, dans les champs et les terrains vagues, des casses automobiles, des garages à l'enseigne emblasonnée. Voitures d'occasion, occasion de qualité, 3 caravanes, excellent rapport qualité-prix. Ford 1927, bon état, voiture garantie, révision assurée, autoradio offert. Pour une voiture achetée, 400 litres d'essence offert. Venez voir par vous-même, voiture d'occasion, zéro frais de commission. Un bout de terrain et une cahute assez grande pour y caser un bureau, une chaise et un argus. Des liasses de contrats cornés et assemblés avec des trombones et une pile impeccable de contrats vierges. Un stylo toujours plein d'encre, toujours en état de marche. On a déjà raté des ventes à cause d'un stylo qui ne marchait pas. Ils n'achètent pas ces têtes de nœuds. Ils font la tournée des garages, ils regardent, passent leur vie à regarder. Cherchent pas à acheter.
nous prennent notre temps. Ils ont rien à foutre de notre temps. Les deux là-bas. Non, ceux avec les gosses. Tu me les fais monter dans une caisse. Tu commences à 200 et tu baisses. Je les sens bien à 125. Tu me les travailles au corps, qui repartent dans un tas de boue. Fais-les cracher. Ils nous ont pris assez de temps. Des propriétaires en bras de chemise. Des vendeurs impeccables. Carnassiers. Petits yeux perçants, guettant les points faibles. Observe bien les visages des femmes. Si elles aiment, on peut la mettre au bonhomme. Commence avec la Cadillac. Après, tu pourras les rabattre sur la Buick 26. Si tu commences par la Buick, ils iront sur une Ford. Retrousse tes manches, au boulot. Ça va pas durer toute la vie. Monte-leur la nache pendant que je regonfle le pneu qui fuit sur la Dodge 25. Je te ferai signe quand tu pourras leur faire un coup de youpin. Vous voulez quelque chose qui roule, oui ou non? Je vais pas vous mentir. C'est vrai, les coussins sont défoncés. Mais c'est pas les sièges qui font tourner les roues. Rangée de voitures, nez en avant, nez rouillé, pneus à plat, garé, collé. Vous voulez monter dans celle-ci? Ah bien sûr, pas de problème, je vous la sors. Oblige-les à te prendre ton temps. Arrange-toi pour qu'ils oublient jamais qu'ils te prennent ton temps. Les gens sont corrects en général, ils voudront pas t'énerver. Arrange-toi pour qu'ils t'énervent et après tu les fais cracher. Rangée de voitures, Ford T, hot et snob, roues qui grincent, courroies usées, Buick, Nash, DeSoto. Oui monsieur, une Dodge 22. Ce qui se fait de mieux chez Dodge, increvable. Compression basse, quand la compression est trop haute, le moteur carbure un moment, mais le métal est pas fait pour supporter ça longtemps. Plymouth, Rockney, Star. Pétard, mais d'où elle vient cette personne de l'Arkansas? Et là, une Chalmers et une Chandler, ça fait des années qu'on n'en fabrique plus. C'est pas des voitures qu'on vend, c'est des poubelles roulantes. Ce qu'il me faut, bon sens, c'est des tas de boue. Je veux rien qui dépasse les 25-30 dollars. Ça se revend 50 ou 75, bonne marge. On se fait que dalle sur les caisses neuves. Trouve-moi des tas de boue. Ça part comme des petits pains. Rien qui dépasse les 250. Hey Jim, elle va attraper le vieux qui passe sur le trottoir. Il a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages. Branche-le sur la personne. Attends, elle est où la personne? On l'a vendue? Eh, faut qu'on trouve des poubelles presto, hein, sinon on n'a plus rien à vendre. Drapeau, rouge et blanc, bleu et blanc, tout le long du trottoir. Voiture d'occasion, occasion de qualité. Sur l'estrade, l'affaire du jour. On la vend jamais, elle attire le chaland. Au prou où elle est, si on la vendait, on se ferait pas 10 cents. Dis-leur qu'elle vient d'être vendue. Enlève la batterie avant de faire la livraison, mets une vieille paire à la place. Hein. Qu'est-ce qu'ils espèrent pour ce prix-là? Retrousse tes manches, au boulot, ça va pas durer. Si j'avais un tas de boue là à vendre, je pourrais partir à la retraite dans 6 mois. Amène-toi, Jim. J'ai entendu qu'il fait le bruit l'arrière de la Chevrolet. On croirait du verre brisé. Eh, fous-y-moi 2 litres de cire. Eh, mets-en aussi dans la boîte de vitesse. Je veux que cette bouse parte à 35 dollars. L'enfoiré, il m'a bien entubé avec celle-là. Je lui propose 10, il monte à 15. Et après, il sort les outils, le salopard. Ah, seigneur, si seulement je pouvais avoir 500 tas de boue. Ça va pas durer. Il aime pas les pneus? Tu lui dis qu'ils ont 15 000 et tu lui fais une ristourne. 1,50 $. Monceau de carcasse rouillée près du grillage. Rangée d'épaves à l'arrière. Elle, épave noire de graisse. Parpaing sur le sol et mauvaise herbe dans les cylindres. Peau d'échappement, tige de frein, en tas comme des serpents. Essence, graisse. Eh, vois si tu peux trouver une bougie pas fendue. Pétard, si j'avais 50 caravanes à moins de 200, elles partiraient toutes. Il attend quoi, lui? Je veux bien lui vendre une caisse, mais je vais pas non plus la pousser jusqu'à chez lui. Eh, c'est pas mal, ça. Arrête de pousser, je te parie que j'arrive à le faire passer dans le canard. T'estimes qu'il achètera pas? Tu me le fous dehors. On a trop à faire pour s'emmerder avec un gus qui sait pas ce qu'il veut. Enlève le pneu avant gauche à la Graham. Tourne la rustine vers le bas. Le reste a l'air nickel. Bien chapé, impec. Bien sûr, elle a encore 80 000 bornes devant cette vieille tire. Par une aise en huile. Au revoir, bonne chance. Vous cherchez une voiture? Vous aviez déjà une idée? Vous avez vu quelque chose qui vous plaît? J'ai une de ces soifs. Un petit verre, ça vous dirait? Allez, venez avec moi. Pendant que votre dame regarde cette Lassalle. Achetez pas ça, faites-moi confiance. Les roulements à billes sont fichus, elle bouffe trop d'huile. Prenez une Lincoln 24. Ça, c'est de la bagnole. Elle vous lâchera jamais. Transformez-la en pick-up. Soleil brûlant sur métal rouillé. Huile sur le sol. Les gens déambulent. Hébété. Il leur faut une voiture. Essuie tes pieds. Eh, t'appuies pas sur les voitures, c'est sale. Comment ça se passe pour acheter une voiture? Combien ça coûte? Surveille un peu les gosses. Putain, je me demande à combien aller celle-ci. On va demander. Ça coûte rien de demander. On peut demander quand même. On peut mettre 75 dollars et pas un de plus. Ou sinon, on n'aura pas assez pour aller jusqu'en Californie. Bon Dieu, si seulement je pouvais me trouver une centaine de tas de boue. Rien à faire qu'ils roulent ou pas. Pneus usagés, pneus abîmés, empilés en colonne, chambre à air rouge, grise, suspendue en chapelet de saucisses. Une rustine? Un nettoyant pour le radiateur, un amplificateur pour le démarreur? Vous mettez ce petit comprimé dans le réservoir et vous gagnez 4 litres au 100. Suffit d'un coup de pinceau. On peut vous poser une couche de peinture pour 50 cents. Des essuie-glaces?
Des courroies de ventilateur, des joints. Ça peut être la soupape. Changez la tige de soupape. Ça coûte 5 cents, vous avez rien à perdre.
Allez, Joe, tu les travailles au corps et après tu me les balances. Moi, je conclue. Et soit ils signent, ou bien je te les tue.
Hé, hey, tu m'envoies pas de clodo. Je veux que ça achète.
Bien sûr, monsieur, montez dedans. C'est une belle affaire, ouais.
Ça, oui, monsieur. 80 dollars, c'est une affaire.
Je peux pas mettre plus de 50. Le type dehors m'a dit 50.
50 ?
50 ? Mais il est malade, lui. Ce bolide, je l'ai payé 78,50.
Joe, espèce de cinglé, tu veux qu'on mette la clé sous la porte ?
Faut leur fermer, lui.
Je pourrais descendre à 60. Bon, écoutez, j'ai pas la journée. Je suis là pour faire des affaires, pas pour vous escroquer. Vous avez quelque chose à donner en échange ?
J'ai bien une paire de mules.
Des mules ?
Oh, Joe, t'as entendu ça ? Ils essaient de nous refiler des mules.
Vous êtes pas au courant qu'on est entré dans l'ère des machines ?
Les mules, ça sert plus qu'à fabriquer de la colle. Des bonnes bêtes, solides. 5 et 7 ans. On va peut-être plutôt continuer à chercher.
Ouais, continuez à chercher, ouais. Vous déboulez à un moment où on a du boulot par-dessus la tête, vous nous faites perdre notre temps et vous repartez. Joe, tu savais que t'avais affaire à des radins ?
Je suis pas un radin. Il me faut une voiture.
On va en Californie.
Il me faut une voiture.
Et moi, je suis trop bon. C'est Joe qui me le dit tout le temps. Il dit que si je continue à vous donner ma chemise, je vais finir par crever de faim.
Vous savez quoi ? Vos mules, je pourrais les revendre 5 dollars pièce pour faire de la pâté pour chien. Je veux pas qu'elles finissent en pâté pour chien.
Bon, peut-être que je pourrais en tirer 10. Ou 7. Allez, vous savez quoi ? On vous prend vos mules pour 20 dollars. Vous nous laissez aussi le chariot, hein ? Vous payez 50 de suite et vous vous engagez à verser 10 dollars tous les mois pour compléter.
Mais vous avez dit 80 ?
Commission et assurance. Ça vous dit quelque chose ? Ça augmente un peu le prix et pas beaucoup. Vous aurez tout payé d'ici 4-5 mois. Signez juste ici, on s'occupe de tout.
Ben, je sais pas si... Bon, écoutez, je suis en train de vous laisser ma chemise et vous me faites perdre mon temps. J'aurais pu conclure 3 ventes depuis que j'ai commencé avec vous. Je suis écœuré.
Voilà, vous signez juste ici.
Parfait, monsieur.
Joe, remplis le réservoir, monsieur.
On va même lui faire cadeau du plein.
La vache, Joe, sacrée affaire qu'on vient de faire. Combien on l'avait payé, cette poubelle ? 30 dollars, 35, non ?
J'ai l'attelage. Et si j'arrive pas à en tirer 75, je change de métier. J'ai déjà fait rentrer 50, avec 40 de plus à suivre.
Ouais, je sais bien qu'ils sont pas tous honnêtes, mais tu serais surpris de voir tous ceux qui continuent à raquer. J'en ai eu un qui est venu m'apporter 100 dollars alors que je l'avais passé en perte des profits depuis 2 ans.
Je te parie que celui-là enverra l'argent. Pétard, si seulement je pouvais avoir 500 tas de boue.
Allez, retrousse tes manches, Joe. Travaille au corps et après tu me les envoies. Il y a 20 dollars pour toi sur la dernière vente. Du bon boulot.
Drapeau en berne sous le soleil de l'après-midi. Affaire du jour. Pick-up Ford 1929. Bon moteur.
Vous espérez quoi pour 50 dollars ? Une Zephyr ?
Siège perdant leur crin, elle cabossée et réparée d'un coup de marteau. Pare-choc tordu, de guingois. Cabriolet Ford avec petit feu coloré sur les ailes, sur le bouchon du radiateur et encore 3 autres à l'arrière. Pare-boue, gros dé sur levier de vitesse. Jolie fille peinte en couleur sur la housse du pneu, prénommée Cora. Soleil de l'après-midi sur les pare-brises crasseux.
Même pas le temps de sortir bouffer, nom de Dieu. Joe, dis à un gamin de me ramener un burger.
Pétarade des vieux moulins.
Il y a un gogo qui regarde la Chrysler. Va voir s'il a du blé dans les poches. Ils sont sournois, ces pecnos. Tu les travailles au corps et tu me les envoies. Du bon boulot. Affirmatif, elle vient de chez nous. Quelle garantie ?
On vous a garanti que c'était une voiture. On vous a pas garanti qu'on allait vous la bichonner.
2 secondes. Écoutez-moi bien, vous. Vous avez acheté une voiture et maintenant vous venez pleurer. Je m'en fous si vous payez pas votre traite. On l'a pas, votre papelard. On l'a envoyé à la boîte de financement. C'est à eux que vous aurez affaire, pas à nous. On garde pas les papiers, nous. Ah ouais ? Allez-y, jouez les durs, j'appelle la police.
Non, on n'a pas changé les pneus. Joe, fous-moi ça dehors. Il a acheté une voiture et maintenant il vient râler.
Vous diriez quoi si je vous achetais un steak et que je vous le ramenais à moitié manger ?
On est une entreprise, on fait pas la charité. Non, mais t'as vu ce culot, Joe ? Hé, regarde là-bas. Le type avec l'insigne du Rotary. Cours le voir. Montre-lui la Pontiac 36. Excellent. Nez carré, nez rond, nez rouillé, nez pointu et longue courbe profilée et surface plane d'avant les formes profilées. Offre à saisir. Vieux monstre au siège profond.
Vous pourrez facilement faire un pick-up. Caravane à 2 roues, essuie rouillé sous le soleil assassin de l'après-midi, voiture d'occasion, occasion de qualité propre, bon moteur, pas trop gourmand en huile.
Regarde-moi celle-ci, bon sang. L'ancien proprio s'en est bien occupé.
Cadillac, LaSalle, Buick, Plymouth, Packard, Chevrolet, Ford, Pontiac, rangée après rangée, phare étincelant sous le soleil de l'après-midi. Occasion de qualité.
Travaillez au corps, Joe.
Bon Dieu, si seulement je pouvais avoir 1000 tas de boue.
Préparez-moi, je bouclerai la vente. Vous allez en Californie ?
J'ai pile ce qu'il vous faut. Elle a l'air bout de souffle hein, quand on la voit. Mais elle a encore quelques milliers de kilomètres sous le capot.
Alignés, côte à côte. Occasion de qualité. Affaire à saisir. Propre. Bon moteur.
Le printemps est magnifique en Californie. Les vallées où les vergers fleurissent ne sont que roses odorants et bouillonnements d'eau vive. Dans les vignes, les premières vrilles poussent sur les vieux sarments noueux, tombent en cascade et recouvrent les troncs. Les collines revêtues de vert franc sont aussi rondes et douces qu'un corsage. Et sur les terres plates et arables s'étirent des kilomètres de laitues vert clair, jeunes choux-fleurs grêles et curieux pieds d'artichauts vert de gris. Ensuite, ce sont les bourgeons qui éclosent sur les arbres, et les pétales des fleurs se détachent des fruitiers en tapissant la terre de rose et de blanc. Le centre des fleurs gonfle, croît et se farde. Cerises et pommes, pêches et poires, figues enclosant la fleur dans le fruit. Toute la Californie s'anime de cette croissance, et les fruits grossissent, et leur poids fléchit tant et si bien les branches qu'il faut placer sous elles de petites béquilles pour les étayer. À l'origine de cette fertilité, il y a des hommes de vision, de science et de savoir-faire. Des hommes qui mènent des expériences sur les graines, qui s'évertuent à perfectionner leurs techniques et à accroître le rendement de plantes dont les racines résisteront aux millions d'ennemis de la terre, aux moisissures, aux insectes, aux rouilles, aux cloques. Ces hommes œuvrent méticuleusement et sans trêve à améliorer les semences, les racines. Et puis il y a aussi les hommes de la chimie, ceux qui traitent les arbres afin de les prémunir contre les nuisibles, qui sulfitent la vigne, qui éliminent pourriture et maladies, mildiou et affections. Et les docteurs en prophylaxie, des hommes de terrain qui guettent les mouches du vinaigre, les scarabées japonais, des hommes qui isolent les arbres malades, les déracinent et les brûlent, des hommes de science. Quant à ceux qui greffent les jeunes arbres, les pieds de vigne, ces hommes sont les plus intelligents de tous, car leur travail, de par sa délicatesse et sa sensibilité, est un travail de chirurgien. Et ces hommes se doivent d'avoir des mains et un cœur de chirurgien pour inciser l'écorce, apposer les greffons, recoudre les plaies et les préserver de l'air. Ce sont de grands hommes. Sillon après sillon, les cultivateurs progressent, fendent la terre printanière et la retournent de façon à la rendre fertile, brise le sol pour retenir l'eau près de la surface, strie la terre et crée de petits bassins d'irrigation, arrache les mauvaises herbes et leurs racines qui risqueraient sinon de priver d'eau les fruitiers. Et tout ce temps, les fruits grossissent et les fleurs de la vigne éclosent en longues grappes. Et, l'année avançant, la chaleur s'installe et les feuilles se dotent d'un vert plus sombre. Les prunes, en petits œufs verts, s'allongent et leur poids fait ployer les branches sur leurs béquilles. Et les petites poires dures se forment, et le premier duvet paraît sur les pêches. Les fleurs de la vigne perdent leurs pétales minuscules, et les petites perles dures se changent en boutons verts, qui à leur tour grossissent. Les hommes, dont le travail est au champ, les propriétaires des petits vergers, inspectent et calculent. C'est une bonne année. Et les hommes en sont fiers, car ils doivent à leur science que l'année soit bonne. Leur science a transformé le monde. Le blé ras et chétif est désormais haut et fécond. Les petites pommes acides sont désormais dodues et sucrées. Et cette vieille vigne qui poussait dans les arbres et dont les menus grains nourrissaient les oiseaux a enfanté mille variétés, rouges et noires, vertes et roses pâles, violettes et jaunes, chacune ayant un goût bien à elle. Les hommes des fermes expérimentales ont fabriqué de nouveaux fruits. Nectarines, prunes de 40 sortes, noix à coquilles de papier,
et sans relâcher le travail, sélectionnent, greffent, modifient, se poussent eux-mêmes en poussant la terre à produire. Et ce sont les cerises qui mûrissent les premières. 1,5 cent la livre. Pétard, à ce prix-là, ça sert à rien de les cueillir. Cerises noires et cerises rouges, sucrées et rebondies. Et les oiseaux picorent la moitié de chacune, et les guêpes s'engouffrent dans les trous qu'ils ont faits. Et les noyaux, auxquels adhèrent encore des lambeaux noirs, tombent au sol où ils restent asséchés. Les prunes violettes deviennent tendres et douces. Misère, on ne peut pas les cueillir, les sécher et les souffrer. On n'a pas de quoi payer les salaires, même en tirant dessus tant qu'on veut. Et le sol se couvre de prunes violettes, et leur peau se fripe un peu, et des nuées de mouches fondent sur le festin. Et bientôt, l'odeur douceâtre du pourrissement emplit la vallée. La chair vire au noir et la récolte s'abîme par terre. Et les poires, à leur tour, deviennent jaunes et tendres. 5 $ la tonne. 5 $ pour 40 caisses de 50 livres. Tailler et traiter les arbres. Entretenir les vergers. Cueillir le fruit. Le mettre en caisse. Charger les camions. Livrer à la conserverie. 40 caisses pour 5 $. On n'y arrive pas. Et le fruit jaune tombe et s'écrase au sol. Les guêpes creusent des tunnels dans la chair délicate et une odeur de fermentation et de pourriture imprègne l'air. Et maintenant les vignes. On n'a pas de quoi faire du vin correct. Les gens n'ont pas de quoi acheter du vin correct. On arrache les grappes sans ménagement, les bonnes grappes, les pourries, celles que les guêpes ont piquées, et on presse ensemble tiges, terre et pourriture. Mais il y a du mildiou et de l'acide formique dans les cuves. On ajoute du soufre et de l'acide tannique. L'odeur de la fermentation n'est pas l'odeur riche du vin, mais celle de la décomposition et des produits chimiques. Ah bon, tant qu'il y a de l'alcool dedans, ils pourront toujours se cuiter avec. Les petits fermiers voient la marée des dettes les engloutir. Ils traitent les vergers sans pouvoir vendre la récolte. Ils taillent et greffent sans pouvoir cueillir. Et les hommes de science travaillent, réfléchissent, et les fruits pourrissent par terre. Et la purée qui se décompose dans les cuves à vin empoisonne l'air, et le goût de ce vin, pas le plus petit soupçon de raisin, uniquement du soufre, de l'acide tannique et de l'alcool. L'année prochaine, ce petit verger sera absorbé par une exploitation industrielle, car son propriétaire est étranglé par les dettes. Ce vignoble appartiendra à la banque. Seuls les gros propriétaires peuvent survivre, car ils possèdent aussi les conserveries. Or, 4 poires pelées, coupées en 2, cuites et mises en conserve, se vendent toujours 15 cents. Et les poires en conserve ne se gâteront pas, elles tiendront plusieurs années. La décomposition gagne tout l'état, et son odeur douceâtre est une grande peine répandue sur la terre. Les hommes qui savent greffer les arbres et rendre les semences grosses et fertiles ne trouvent pas le moyen pour que les affamés puissent manger leur production. Les hommes qui ont fait naître de nouveaux fruits se révèlent incapables de concevoir un système permettant que leurs fruits soient mangés. Et leur échec pèse sur tout l'État comme une grande peine. Le produit des racines de la vigne et des arbres doit être détruit en vertu du maintien des cours. Et c'est bien cela le plus triste, le plus douloureux. De pleins camions d'oranges déversés par terre. Les gens viennent de plusieurs kilomètres à la ronde pour récupérer ces fruits, mais c'est hors de question. Jamais ils n'achèteront d'oranges à 20 cents la douzaine s'ils peuvent tout simplement les ramasser. Et des hommes aspergent les oranges avec de l'essence. Et c'est un crime qui les met en colère contre ceux qui sont venus prendre les fruits. 1 million d'affamés qui manquent de ces fruits, et on arrose d'essence des montagnes d'or. Et l'odeur de la pourriture règne sur la campagne. On brûle le café dans les chaudières des navires. On brûle le maïs pour se tenir chaud, car il flambe bien. On déverse les pommes de terre dans les rivières, et on poste des gardes sur les berges pour empêcher les affamés de les repêcher. On abat les porcs, et on les enterre, et on laisse la putrescence s'infiltrer dans le sol. Il y a ici un crime qui surpasse toute dénonciation. Il y a ici une peine que les pleurs ne peuvent figurer.
Il y a ici un échec qui supplante tous nos succès. La terre fertile, les arbres bien alignés, les troncs robustes, les fruits mûrs. Et les enfants qui meurent de la pelagre doivent en souffrir parce qu'une orange ne rapporte pas de profit. Et les médecins doivent remplir les constats décès, mort de malnutrition. Parce que la nourriture doit pourrir de force. Les gens viennent munis d'épuisettes pour pêcher les pommes de terre dans la rivière et les gardes les repoussent. Ils viennent dans des guimbardes tremblantes ramasser les orages abandonnés, mais elles ont été arrosées d'essence. Et ils regardent, impuissants, les pommes de terre flotter dans le courant. Et ils écoutent les cris des porcs qu'on abat dans une fosse avant de les recouvrir de chaux vives. Et ils contemplent les montagnes d'oranges qui s'aplatissent et se transforment en purée suintant la putréfaction. Et dans les yeux des gens se lit l'échec. Et dans les yeux des affamés se lit une colère grandissante. Dans leur âme, les raisins de la colère sont chaque jour plus gros et plus lourds. Et la vendange ne saurait tarder.
Bon, alors ça, c'est une blague, hein, bien sûr. Bienvenue sur La Rosée. Ouais. Faites du bruit. Bon, la blague, c'est une dédicace au petit Pada, parce que quand il est sur scène, il aime bien taper dans ses mains, faire chanter les gens. Et ça fait pas avancer le schmilblick, mais ça fait, comment dire, ça remplit le concert, quoi. Bah ouais, voilà, c'était le petit sourire du début. Bon, allez, welcome. C'est La Rosée, et bienvenue sur un D7, D8, D10, comme d'hab, un petit délire particulier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se retrouver, donc bien sûr je vous souhaite pas les vœux, hein, puisque rien à foutre, hein, pour moi c'est au quotidien, sûrement pas une fois dans l'année. Ce qui va bien, je dirais, coller au thème d'aujourd'hui, voilà. Parce que pour une fois le Pada est venu me voir pour une fois, c'est surtout moi, j'ai décidé de bosser. Voilà, j'ai décidé de bosser, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de faire des petites écritures. Pas comme d'hab où j'envoie les trucs comme ça, parce que non pas par prétention ni par facilité, mais parce que c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Puis chacun de nous a des talents, des petits pouvoirs, hein, sans prétention. Surtout, pas de domination, pas d'exploitation, pas de soumission. Donc chacun de nous a des petits pouvoirs, des choses qu'il sait faire sans forcer, sans se prendre la tête. Et du coup, moi, c'était ça. Mais là, sur ce coup-là, eh ben, j'ai eu envie de me... Pas de me remettre en question, mais de me dire, voilà, on va essayer quand même un petit peu de taffer et d'accompagner le Ilan du mieux possible. Donc voilà, le D7 d'aujourd'hui, c'est parti. Et le thème, c'est les raisins de la colère. Alors bien sûr, il y en a qui ont eu le bouquin, hein. Ah, petit quiz. Qui a écrit ce livre dans les années... je crois que c'est juste après 29, ça va être 31, 32, un truc comme ça. Voilà. Hein, celui qui trouve ne gagnera rien et celle qui trouve non plus. Voilà, c'est comme ça. Mais par contre, vous pouvez tous aller voir, pour les feignants qui ne veulent pas lire, vous pouvez toujours aller voir le film de John Ford, qui est intéressant. Et voilà, du noir et blanc, ça fait du bien pour se rappeler que pour tous nos jeunes gens qui sont à l'intemporalité et la célérité ou le temps zéro... existe, le temps même moins un, les choses se passent même avant qu'on ait pu imaginer qu'elles puissent se passer. Voilà, là vous allez revenir à un autre moment et c'est toujours un moment intéressant. Donc les raisins de la colère, c'est quoi? Ben vous le savez, Ilan vous en a déjà parlé logiquement pendant une demi-heure, parce que je vous rappelle que moi c'est enregistré, je suis toujours banni de Radio Galère, physiquement, mais pas dans l'oralité. Et donc aujourd'hui, je vous dirais qu'on est dans le week-end qui précède l'émission de La Rosée, qui se passe toujours le lundi, troisième lundi du mois, de 4h30 à 18h. Voilà. Les raisins de la colère, pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce que lorsque Ilan m'a évoqué la thématique, ça m'a parlé tout de suite et ça m'a fait penser à tous ces gens qui sont pour moi les gens qui devraient faire partie du projet, là, les 70% qui en chient tous les jours, ce que j'appelle vraiment les premiers de cordée. Les premiers de corvée sont les premiers de cordée. Tous ces gens qui vont de temps en temps gueuler, qui prennent des coups sur la tronche, qui prennent du gaz, qui prennent bien sûr les insultes, l'opprobre général des médias dominants dominés par une classe bourgeoise, etc., etc. Et donc aujourd'hui, voilà, j'avais envie de prendre le temps d'avoir une pensée pour tous ces gens. Toutes ces personnes qui donnent, qui respectent les règles vraiment, pour la majorité, vraiment à fond, quoi. Voilà. Grand respect à eux, simplement, non pas parce qu'ils suivent les règles, hein, parce que j'aimerais bien que des fois, ils brûlent tout réellement, histoire qu'on puisse, que l'herbe repousse, bien plus verte, cette fois-ci pour le plus grand nombre. Mais voilà, j'avais envie de penser à eux. Et pourquoi c'est intéressant, ce moment des raisins de la colère? Parce qu'il y a tout un tas de personnages dans lesquels chacun de nous peut se retrouver. Et surtout, on parle que de choses vraies, de vécu. Le temps passe tellement vite qu'on a l'impression de se dire qu'il y a 10 ans et demi, il n'y a pas eu nuit debout. Qu'il y a 10 ans et demi, il n'y a pas eu des gens qui ont eu envie de se retrouver et qui étaient déjà au bout de tout. Alors différemment, hein, parce que bien sûr, il y avait la crise des subprimes, les petites enculeries entre très puissants pour faire encore plus d'argent, mais qui a touché tout un tas de personnes. Donc pour ceux qui ont envie de se renseigner, c'était toutes les histoires de ce qu'on a appelé les actifs nocifs au niveau des prêts immobiliers, et qui a fait que des tonnes de gens aux États-Unis se sont retrouvés à la rue, et que par effet boule de neige, après ça a touché l'économie mondiale, donc tous les pays. Bien sûr, il y a eu l'épisode de la Grèce où ils se sont fait enfler. Alors, il y en a qui pourraient dire, bon, ben, c'est des Grecs, c'est plutôt bien normal. Je ne suis pas certain. Mais bon, ça fait carnage partout. Et bien sûr, le 0,001% des riches n'a cessé de se gaver. Et on va dire que un bon 40% de gens est rentré dans la pauvreté la plus totale. Et les autres au milieu font plus ou moins de tampons en tirant, bien sûr, vers le bas. Et donc, pourquoi je parle des raisins de la colère? Parce que après, nous, en France, cette fameuse histoire de nuit debout, les gens avaient juste envie de parler, d'essayer de trouver des solutions au-delà du Pacifique. Ils avaient juste envie d'imaginer quelque chose de plus sain. Et surtout, avec un mot qui est essentiel, ensemble. Voilà, ensemble. On est capable de vivre ensemble, de faire les choses ensemble, de s'entendre. Des fois, on s'aimera pas. Des fois, on pourra même se détester. Mais à aucun moment, on ne s'emboudera suffisamment pour se nuire. Donc on va faire des choses ensemble. Et c'était un petit peu mon départ, ma petite base, voilà. Donc ma petite dédicace, en fait, à ce niveau-là, elle est simple. Et juste, je voudrais reprendre quelques petites phrases pour ce D8 très rapide, si tu veux. Des petites phrases très sympas que Steinbeck a données à ces divers personnages. Et pourquoi je vous parlais de Nuit Debout? Parce que après Nuit Debout, il y a eu tout un tas de choses assez terribles. Il y a eu des mensonges gouvernementaux. Malheureusement, on n'y est que trop habitué. Et puis après, on est arrivé, quand la goutte déborde un peu, aux Gilets jaunes. Et là, ça a été une répression hors norme, au-delà des mutilations, etc. etc. On n'imagine pas c'est pas des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées en comparution immédiate. Tout le monde en connaît, on en a tous dans nos amis, dans nos familles, tout le monde. Enfin, dans les gens un petit peu moins riches que la caste dominante. Mais voilà, des gens qui ont pris des 3 mois avec sourcils, des 1500 euros d'amende, des 2000 euros d'amende, des 2500 euros d'amende. Et puis ça a continué jusqu'aux petites, alors moi j'appelle pas ça des émeutes, mais au brouhaha de nos jeunes, bien sûr, alors ce qu'on appelle des quartiers, lotissements populaires, après justement un énième meurtre de la police. Et là ça a été pareil, là on a eu des enfants, donc là je parle d'enfants, donc des mineurs qui ont pris cher. Voilà. Et des majeurs qui ont pris encore plus cher pour aller prendre une canette. Je ne te parle pas des mecs qui sont allés braquer un garage et qu'on fait sortir. Tout était filmé magnifique. Non, ceux-là, ils ont fait sortir 40 SUV, ils n'ont rien eu. Non, je te parle de minots qui se sont retrouvés. Voilà. Alors, ce n'est pas une histoire d'être pour ou contre, c'est pas ça. Mais c'est que toujours les mêmes qui morflent, quoi. Donc voilà, je voulais reprendre quelques petites phrases pour te mettre en contexte parce que je pense qu'Ilan a fait le taf et que maintenant tu sais exactement de quoi on parle sur les raisins de la colère. Et notamment, durant l'épisode des Gilets jaunes, il y a eu justement des gens blessés qui sont en procès aujourd'hui, des gens maltraités. Et tu as eu à entendre tout un tas de choses un peu dégueulasses. Et à un moment donné, justement, dans ces raisins de la colère, où c'est la Grande Dépression, donc il n'y a plus à bouffer ni rien, les gens sont obligés de partir, de quitter leur terre. De toute façon, ils sont chassés de leur terre, puisque de toute façon, c'était des métayers. Donc je pense qu'il en a expliqué, donc des gens qui étaient là, qui sous-louaient une terre, qui l'exploitaient, et qui avaient une espèce de loyer, et qui après revendaient leurs produits. Leurs produits leur servaient aussi à subsister. Malheureusement, il y a un grand problème climatique. Tim, 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 on y est nous aussi bientôt. Et on a déjà commencé, hein, nos paysans qui se suicident tous les jours. Et donc ces gens-là sont obligés de partir. Et en partant, c'est toute une famille qui s'en va. Et dans le voyage, ils vont perdre le grand-père, la grand-mère. Et une des premières tristesses, et qui me fait penser à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, un des personnages va justement laisser un mot quand ils enterrent leur grand-père pour qu'il ne soit pas accusé presque d'avoir tué cette personne-là. Et ça m'a marqué parce que là, une des phrases que je trouve choc et intéressante, c'est lorsque justement tu as donc un des personnages, Tommy, qui est un peu le personnage principal, qui dit « Le gouvernement prête plus attention à un mort qu'à la réalité et la souffrance des vivants. » Et c'est exactement ça qu'on a pu vivre, je ne reviendrai pas sur l'histoire des attentats, comment c'est malheureusement interprété et manipulé après. Mais voilà, c'était quelque chose qui m'a vraiment touché, qui m'a marqué. Pourquoi je te parlais des histoires de climatiques et des histoires d'agriculteurs? Mais parce que c'est toujours la même chose. C'était ça après la Grande Dépression de 1929 aux États-Unis. C'est ça aujourd'hui en France, en Europe. C'est-à-dire quelques agriculteurs qui ont des milliers et des milliers d'hectares et quelques milliers d'agriculteurs, pour ceux qui restent, qui ne possèdent rien, pratiquement rien en terre. Donc on ne peut rien faire. Tout est impossible. Tu vois? Et la deuxième phrase qui m'a touché dans les raisins de la colère, et c'est, on se l'est tous et toutes dit cette phrase-là mille fois. Je me suis dit que si tous les nôtres s'assemblaient et gueulaient, on pourrait faire des choses extraordinaires, tu vois, on pourrait changer le bordel. Et là, tu as sa mère, parce qu'il parle à sa mère, à ce moment-là, Tommy, qui dit « Oh Tommy, il te pourchasserait ». Et c'est tout ce qu'on a vécu. Et plein de fois, quand tu vas lire ce livre, quand tu vas voir le film, l'adaptation de Ford, tu vas voir les notions de ce que les gens donnent, c'est-à-dire les notions d'agitateurs. Tu vois les notions de ces gens qui vont venir alors qu'en fait, ils veulent de la liberté, mais on va les appeler les rouges, des communistes. Après, on va sortir tous les noms, tout ce que tu peux entendre aujourd'hui, les islamo-gauchistes, les machins et tout. Mais tout se répète. Je te promets, c'est le hamster dans sa roue, c'est un truc terrible et horrible en même temps. Et Tommy va continuer comme ça et il va évoluer tout le long du roman en accompagnant et tu vas voir la misère sociale et tu vas voir aussi le comportement des gens qui s'en sortent un petit peu, c'est-à-dire de ceux qui comme eux ont pu partir des régions, ont pu fuir et ont trouvé un métier ou se sont transformés. Il y en a même qui sont rentrés à faire flic, l'horreur absolue quoi. Et ces gens-là qui étaient des désespérés ou des gens qui rentraient dans une forme de misère et qui se sont sauvés la peau, eh bien, ils ont un regard très sale sur ces gens dont on parle à l'instant, qui sont les, entre guillemets, les pas les nouveaux pauvres, mais les nouveaux. C'est même plus de la désolation, c'est au-delà de la désolation. Et ils les regardent avec un mépris total. Et à un moment donné, ils sont obligés de s'arrêter de faire de l'essence. Et là, tu as une conversation avec les deux pompistes qui les servent. Déjà, ils leur demandent s'ils ont les moyens, bien sûr, de faire l'essence, parce qu'ils les prennent pour au-delà de pauvres. Mais c'est vraiment une insulte, tu vois. Et à un moment donné, ces gars-là se retrouvent tous les deux quand leur camion repart surchargé avec toute la famille, toutes les affaires, puisqu'ils partent de leur terre désolée pour aller bosser comme des enfoirés en Californie. Mais il en a dû t'en parler. Et là, d'un coup, les deux se disent « Toi et moi, on a du bon sens ». C'est eux qui n'ont ni sens, ni sentiment. C'est pas des humains. Un être humain ne se doit pas de vivre comme ils vivent. Un être humain ne supporterait pas autant de misère. Voilà, voilà. Et ça, nous, on l'a connu. Combien de fois tu entends, au-delà des médias, même dans ton environnement, dans ton entourage, les mêmes mots. Ce mépris, qui est une horreur, c'est-à-dire ce mépris de caste et de classe qu'on connaît, des bourgeois ou de ceux qui ont cet esprit bourgeois envers les autres. Mais dans nos propres populations, si tu veux, tu as la même chose. Et là c'est là ce qu'on touche du doigt, si tu veux, une couche de crasse qu'il va falloir un jour arriver à gratter, tu vois. Qu'il va vraiment falloir arriver un jour à gratter. Et du coup, pour finir ce D12, J'ai triché un peu. Je vais finir avec une révélation que Tommy a sur la fin de l'histoire. Il a deux révélations qui sont importantes et qui nous concernent toutes et tous. La première, c'est lorsqu'il va dire « Un homme, une femme, hein, bien sûr, un humain, n'a pas une âme à lui tout seul, mais rien qu'un morceau d'une grande âme commune qui appartient à tout le monde. » Et du coup, à la sortie de cette phrase, il va dire à sa mère, puisqu'il va devoir partir, parce qu'il est pourchassé, parce que, bien sûr, il a eu un côté un petit peu révolté, il a fait une action, il en t'en parlera sûrement, qui change un petit peu le cours de son histoire et qui va changer le cours de notre histoire quand on va le voir et quand on va l'entendre. Il finit comme ça. Et je vais finir comme ça. Je serai partout dans l'ombre. Je serai partout où il y aura une bagarre pour que les gens puissent bouffer. Je serai là partout où il y aura un flic qui frappera un gars. Je serai là où les types gueulent quand ils deviennent enragés. Et je serai là où les gosses rient quand ils ont faim. Et qu'ils savent que la soupe est prête. Et quand les gens mangent les choses qu'ils font pousser et vivent dans les maisons qu'ils construisent, je serai là. Le combat continue, prenez soin. Lâchez rien. C'est la fin des 14. Allez la bise, aïoli.
Chers auditeurs, chères auditrices, chers heures, chers is, vous êtes toujours sur Radio Galère, 88.4, radiogalère.org. Vous êtes sur La Rosée, une émission culturelle, théâtre, musique, lecture de textes, invité, live, tous les troisièmes lundis de chaque mois de 16h30 à 18h. Et après avoir lu et parlé des raisins de la colère de John Steinbeck, un texte qui a bientôt 100 ans mais qui n'en est pas moins actuel, désormais découvrons un ouvrage, un texte qui, lui, est d'une grande actualité, écrit par un auteur bien actuel, marseillais, et bien ancré dans son petit cœur, Avicenne Riahi. Merci de laisser place au chapitre « La vérité selon Haraj », extrait d'un ouvrage écrit cette année sur sa vie et sur Gaza. C'est tout de suite sur La Rosée. Partout j'étais perdu, dans ma vie, mais aussi dans mon récit. J'étais perdu dans ma chronologie. Qui est dans le passé ? Mon récit ou moi ? Écrire. Quel drôle de rapport au temps. En attendant, je suis toujours dans le taudis payé avec la PL de Khaled. Je discute avec Ratus. L'édit de Mansour al-Haraj posé devant moi, ça me fait un sujet tout trouvé. Mansour al-Haraj, ce n'était pas n'importe qui, Ratus. Un mystique brûlé vif pour avoir tenu des propos beaucoup trop subversifs. Le rat leva la tête, abandonnant son bordel non sans douleur. Ses petits yeux noirs brillaient. Brûlé ? Parce qu'il a dit « Ana al-Haq ». Tu comprends ? Ça veut dire « Je suis la vérité ». C'est plus fort que « Je suis Charlie », tu ne trouves pas ? Soudainement, le rat me trouve ambigu. M'en fous. Je continue. Ce n'était pas juste un homme. Il disait qu'il était Dieu, en quelque sorte. Et ça ne plaisait pas du tout aux autorités religieuses de son époque. Ils ont dit qu'il blasphémait. Ratus cessa même de mâcher son reste de détritus. Ils l'ont tué parce qu'il était fou ? Pas un fou, non. Un sage avec un propos. Pour lui, il n'y avait pas de séparation entre le créateur et la création. Malheureusement, les religieux voulaient que Dieu reste au ciel, très loin, inaccessible. Haraj rétorquait « Non, Dieu est là, dans chaque chose. Évidemment, ça n'a pas convaincu ceux qui organisaient la cité. Trop dangereux son baratin. Cela donnait trop de pouvoir à l'individu. Tu captes? Ça remettait en cause tout le système. Alors ils l'ont crucifié, flagellé, puis brûlé. Le rat hésitait. Me poser encore une question ou retourner dans ses cochonneries? Pendant sa réflexion, il resta figé, les dents enfoncées dans un quignon de pain. Finalement, il conclut qu'il s'en foutait complètement de ce mensonge. Plus rien à discuter. Alors j'ai fumé, jusqu'à faire grossir ma tête. Grossir, grossir, pour qu'elle retombe avec fracas dans le lit. Elle fait ça, ma tête, et puis rêve. Je ne sais plus très bien ce que joue le petit théâtre de mon inconscient. Ces derniers temps, le rideau ne s'ouvre plus. La faute à la drogue. Ça me coûte mon pognon et tous mes rêves, la drogue. Depuis combien d'années je ne suis pas tombé d'un immeuble ou n'ai-je pas baisé une gonze imbaisable dans la réalité? Ah, les rêves et les cauchemars me manquent. Ce que le haschich te donne d'un côté, il te le retire de l'autre. Il te donne le pouvoir de l'imagination, mais t'enlève la possibilité d'en profiter. Baudelaire. Encore. Ce soir-là, assis dans le public, je me prépare comme chaque nuit à observer le rideau fermé. Soudainement, les 12 coups du théâtre. Je me mets à espérer. Il me semble que le rideau bouge. Oui, ça bouge. Ça bouge. Merci Seigneur. Quel cadeau. Je rêve enfin. Pour les revenus de tous, ce n'est pas grand-chose, mais pour les crédules dans mon genre, c'est une porte ouverte sur le merveilleux. À ce propos, Jody m'avait parlé de la grand-mère d'une copine qui ne s'était jamais souvenue de ses rêves. À la fin de sa vie, la vieille dame demandait à ce qu'on la réveille en pleine nuit. Peut-être que dans ces conditions, elle s'en souviendrait, pensait-elle. Les petits-enfants s'exécutaient, mais jamais rien ne lui revenait. Alors la pauvre dame se recouchait, tout son inconscient hors de sa portée. Elle avait fini par décéder sans jamais voir ce qui se passait derrière le rideau. Pourtant, elle ne consommait pas de cannabis. Le rideau a fini de glisser sur le côté. Sur la scène, je découvre Gaza. Et puis moi. Je suis là aussi. J'interprète Mansour. Ma cervelle a fait un drôle de mix. Je traverse un couloir de ruines où des bouts de tôle froissés pendent comme les lambeaux d'une peau arrachée. À mesure que j'avance, le crépuscule tombe sur Gaza. Ce n'est pas une nuit paisible qui s'installe. C'est une nuit sans étoiles. Entre nous et le ciel, la fumée des incendies. Partout autour de moi, ce silence de western. Je m'arrête devant une maison éventrée. Là, une mère, recroquevillée sur elle-même, tient dans ses bras le corps sans vie de son enfant. Plus de larmes à donner, ni même un regard. Je l'observe en silence, une pluie de cendres dans ses yeux noirs. Je ne la console pas. Je ne dis rien. Je laisse le silence derrière moi et me dirige vers la mer. Les vagues frappent la côte, furieuses. Là-bas, sur la plage, des enfants jouent encore, à la lisière de la nuit. À cet instant, leur lutte n'est pas grand-chose. C'est attraper le ballon. Le répit est court. C'est encore la saison des vacheries. C'est marrant. Quand le plus chétif des chétifs a marqué, une bombe a explosé au loin. Cela n'a pas empêché la ferveur. Tout ce vacarme, c'était comme le grondement sourd d'un orage qu'ils ont appris à ignorer. Je continue mon chemin. Je marche dans les ruelles, toujours invisible aux yeux de tous. Les ombres dansent dans les décombres et chuchotent, racontant des histoires de survie. J'observe, je ressens, mais je ne peux intervenir. C'est à la fois un don et une malédiction d'être témoin de tout sans jamais être vu. Un grondement sourd brise le silence. Je me tourne et vois un tank israélien avancer lentement, implacable, ses chenilles broyant le béton et les débris sous son poids. Et même, summum de l'horreur, des cadavres et des blessés. Le monstre de métal semble étranger à cette terre, mais il l'écrase comme si elle lui appartenait. Qu'importe le hurlement. Je m'approche et, sans hésiter, traverse tout fantôme sa coque froide et massive. À l'intérieur, l'air est lourd, saturé d'odeur. La sueur des soldats, le métal chauffé par les frottements, et l'huile industrielle qui suinte des mécanismes. L'espace est exigu, oppressant. Les parois vibrent au rythme du moteur et les lumières rouges des écrans projettent des ombres sur les visages des soldats. Ils sont concentrés, silencieux, leurs gestes précis et mécaniques. Dans un coin, je remarque une silhouette. Un homme, un jeune Palestinien, est agenouillé, les mains liées, un bandeau noir sur les yeux. Son visage est tendu, ses lèvres tremblent légèrement, mais il garde le silence. Un des soldats s'approche, penché sur un écran, et j'entends sa voix sèche en hébreu.
« Tu sais où on va ?»
Le prisonnier ne répond pas. Ses lèvres bougent, mais aucun son n'en sort. Un autre soldat ricane.
« Il n'a pas besoin de savoir, » dit-il en haussant les épaules. « Il doit juste obéir. »
L'homme garde la tête baissée. Son angoisse s'intensifie. Le tank continue son chemin et chaque chaos secoue violemment son corps maigre. Je m'interroge. Où l'emmène-t-il? Quel rôle va jouer cet homme? Finalement, le tank s'arrête. Les coutilles grincent en s'ouvrant et une lumière crue envahit l'espace. Un des soldats attrape le prisonnier par le bras et lui arrache son bandeau. Le jeune homme plisse les yeux, aveuglé, cherchant désespérément à s'orienter. L'un des soldats, un officier, lui fait face, le regard perçant.
« Écoute bien, » dit-il d'un ton glacial. « Tu vas entrer dans cet hôpital et leur dire d'évacuer. Tous. S'ils refusent, ils mourront. Toi aussi. »
Le jeune homme reste figé. Je peux lire dans ses yeux une lutte intérieure. L'angoisse, la confusion, mais aussi un amour désespéré pour quelque chose, ou quelqu'un. Il hoche la tête, lentement. Il descend du tank, les jambes tremblantes, et je le suis. Nous pénétrons ensemble dans l'hôpital. Dès qu'il franchit le seuil, des regards hostiles se tournent vers lui.
« Traître !»
crie une voix.
« Pourquoi es-tu ici ?»
lance un autre, furieux. Les murmures grondent autour de lui, menaçants. Le jeune homme lève les mains, tentant de calmer les esprits.
« Attendez, écoutez-moi, je vous en supplie. Je suis pas là pour vous trahir. Ils vont bombarder l'hôpital si vous restez. Je vous mens pas. Et puis ma mère est ici. »
Sa voix se brise sur ces derniers mots. L'assemblée se tait un instant, troublée par sa détresse. Puis un murmure s'élève.
des doutes, des accusations. C'est alors qu'une vieille femme avance lentement dans le hall. Elle est frêle, ses cheveux blancs en bataille, mais son regard est debout. « C'est mon fils, » dit-elle d'une voix ferme. « Croyez-le, il dit la vérité. » Elle se tourne vers l'assemblée, ses yeux parcourant chaque visage. « Nous devons partir. Restez ici, c'est accepter de mourir. Ceux qui veulent vivre doivent me suivre. » Avant de se réunir pour partir, chacun se prépare dans un coin. La mère en profite pour questionner son fils. « Mon fils, dis-moi ce qu'ils t'ont fait. Non. Prends-moi juste dans tes bras. » Elle s'exécute la maman. Ça lui vient si facilement la tendresse. Et lorsque le fils plonge dans les bras de sa mère, il étouffe ses sanglots sur son épaule. Très vite, elle veut l'observer, ses yeux surtout. Il y a tout dans un regard. Mais il ne la laisse pas faire. Trop de souffrance. Vraiment. C'est comme un puits sans fond. Malgré sa maigreur, il a encore la force de la tenir et de l'empêcher de le scruter. Les sanglots, à peine audibles, deviennent carrément silencieux. Juste des spasmes. Il rentre tout dedans, le jeune bonhomme. Comme s'il n'y avait pas assez de place dans ce monde pour accueillir sa douleur. Vous entendez? Pas assez de place. Tout autour, le silence est pesant. Mais peu à peu, les gens se lèvent, convaincus par ces mots. Ils se mettent en file, les enfants d'abord, les mains serrées les unes aux autres. Le jeune homme marche en tête, sa mère juste derrière lui. Je les suis, ému par leur courage, par cette lueur fraternelle qui éclaire un instant l'obscurité de cet enfer. Ils sortent comme une rangée de fourmis de l'hôpital. À ce moment-là, un coup de feu déchire l'air. Une détonation unique, précise, qui suspend le temps. Cela provient d'un sniper, tapis je ne sais où, son courage à quelques kilomètres. Le jeune homme est surpris. Je vois ses yeux s'écarquiller avant qu'il ne tombe lourdement au sol. Sa mère pousse un cri déchirant et se précipite vers lui. Elle tombe à genoux, le prend dans ses bras, ses mains tremblantes caressant son visage. Elle douche son fils. Elle voudrait tant le sauver. Elle le douche juste. Mon fils, non, reste avec moi. Ce sacrifice, brisé par la violence absurde et invisible, m'étreint. Les autres continuent d'avancer, mais je sens leur douleur, leur tristesse. C'est ainsi. Il faut poursuivre sa route. Ce n'est pas tout. Au bout de la file, une petite fille marche. Elle doit avoir 7 ans. Sur son dos, elle porte sa sœur cadette, à peine âgée de 4 ans. Ses petits pieds trébuchent parfois sur le sol caillouteux, mais elle avance avec une détermination qui dépasse son âge. Elle marche. Elle marche. Elle finit par prendre un autre chemin que tous les autres. Elle regarde droit devant et pense à sa maman. Elle serait fière d'elle parce qu'elle s'occupe de sa sœur. C'est comme si elle entendait sa voix là-bas, de l'autre côté de la vie, entre le ciel et le cœur. C'est toute sa force, cette voix. Parfois, elle lui répond, pendant que la petite, sur son dos, cligne des yeux, ne tombe pas tout à fait dans le sommeil. Ne t'en fais pas, maman. Je ne la lâcherai pas. Je ne la lâcherai pas. Sa grande conviction dure longtemps. C'est même inimaginable pour un enfant.
Après 2 heures de marche, elle finit par s'écrouler, épuisée. Ses genoux heurtent la terre sèche et sa sœur glisse doucement de son dos. Elle respire drôlement, la grande, comme quand on s'apprête à ne plus respirer du tout. Sa cadette l'attrape par la main, épuisée, mais avec la peur comme dernière force. La peur de perdre ce qui lui reste. Si la grande sœur tombe, c'est tout un monde qui s'écroule pour la toute petite. Trop lucide pour être aimable ? Non. Elle reste aimable, la petite. T'es trop forte ! Elle murmure ça, avec le peu de salive qui lui reste dans sa bouche. Mon Dieu, c'est insupportable. Le monde est insupportable. Là, tout de suite, je veux bien me sacrifier pour toutes les deux. Je suis qu'un fantôme. Le monde n'est qu'un fantôme. Mon Dieu, c'est le paradis terrestre que je voudrais. Mon Dieu, juste une intervention. Ne coupe pas la mer en deux. Fais-la juste se relever. S'il te plaît, donne-lui toutes mes forces. Ah, mes respects, les sionistes. Il faut avoir beaucoup de ventre pour saccager tant de beauté. Mes respects. Mes respects. Il nous reste le rêve. Mais rêver, c'est juste rendre la souffrance poétique. T'es trop forte, répète-t-elle encore. Et à chaque fois qu'elle le répète à sa sœur, je m'effondre. Et j'ai honte de m'effondrer. Devant elle, les ruines disparaissent. Le vent ne porte plus l'odeur du sang et des décombres. Elles sont dans un jardin. Les arbres sont hauts, leurs branches couvertes de fruits mûrs. L'herbe est douce sous leurs pieds nus. Et le soleil brille d'une lumière dorée. Les deux sœurs éclatent de rire. Elles courent, se poursuivent parmi les fleurs sauvages, leur éclat de joie emplissant l'air d'une musique pure et innocente. Elles se retrouvent bientôt autour d'un tapis posé sur l'herbe. Les parents sont là, souriants, vivants, très vivants. Plus jamais personne n'est aussi vivant par chez nous. Leur père coupe des morceaux de pain. Leur mère prépare des assiettes avec des olives et du fromage. « Venez, mes filles, » dit leur mère en tendant les bras. Les deux sœurs s'assoient et commencent à manger. Les rires fusent, comme des balles qui chatouillent, provoquant le bonheur sans jamais faire de mal. Jamais. Leurs mains se tendent pour attraper les fruits juteux qui roulent sur le tapis. Ça coule en petite rivière sur leurs robes à fleurs. « Ce n'est pas grave, elles rient. » dit le papa, toujours très sérieux, mais qui se fissure devant la beauté de ses filles. L'aîné vérifie qu'elle a bien son papa dans la poche. Oui, et tout entier le gaillard dans une petite poche. Alors elle continue de rire et de manger sans faire attention. Oui, elles sont insolentes, comme quand on se sent protégé et éternellement enfant. Je les regarde et je pleure. Et enfin, je demande pardon. Pardon. Je voudrais faire plus. Je voudrais faire l'amour avec la même intensité qu'ils font la guerre. Je voudrais étrangler les cœurs. Je crois même que je voudrais me faire exploser pour faire redescendre tous ces rires qui sont montés si haut dans le ciel pour se perdre à tout jamais. Pardon. 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 Vous venez d'écouter le texte d'Avicenne Riahi, La vérité selon Haraj, extrait d'un livre sur Gaza.
Vous êtes sur La Rosée, tous les troisièmes lundis de chaque mois, de 16h30 à 18h.